Bonsoir Lola Lafont, bienvenue à la librairie Mola. Vous êtes là pour nous parler de La petite communiste qui ne souriait jamais, parue au début de l'année chez Actes Sud, qui évoque, vous le savez sans doute, le parcours de Nadia Comăneci, le parcours sportif, et puis voilà, elle est originaire de Roumanie, donc qui évoque aussi évidemment la Roumanie. Alors quand on pense à ces deux thématiques, moi je crois qu'il y a deux images très fortes qui ont, je crois, marqué l'inconscient collectif. C'est la performance de Nadia Comăneci au JO de 76, et puis c'est aussi l'assassinat des époux Ceausescu. Cette image de ces deux personnages qui se retrouvent au sol, je crois que c'est sur un stade, si ça se passe dans un stade. Enfin,
c'est dans une école.
Dans une école. Donc il y a ces deux images qui sont très fortes, et j'ai l'impression que ce roman, il évolue autour de ça, parce que c'est d'un roman qu'il s'agit. Alors pour commencer, moi j'aurais aimé que vous nous présentiez un petit peu cette Nadia Comăneci, une gymnaste, mais une gymnaste pas comme les autres, puisqu'elle est la première à avoir remporté la note de 10 au JO de Montréal en 76, avoir littéralement perturbé, cassé les ordinateurs. Donc voilà, si vous pouviez nous peut-être la décrire en deux mots, enfin en tout cas le personnage de Nadia dans ce roman, puisque voilà, c'est d'un roman qu'il s'agit. Sur oui. Quoi vous avez voulu accentuer les traits?
Pour moi, c'est le roman d'un corps. En fait, c'est le roman d'un corps de femme. Enfin, c'est le roman d'un corps de petite fille qui devient une femme et qui, dont la terre entière tombe amoureux quand elle est une petite fille, et qui, au moment où elle devient une jeune femme, c'est comme si elle rompait le contrat avec ses amoureux. C'est comme s'il avait jamais été prévu qu'elle grandisse. Donc, c'est vrai que c'est plutôt le roman d'un corps. C'est le destin d'un corps, et finalement effectivement c'est un personnage très très extraordinaire, une athlète très extraordinaire, et puis aussi c'est la première et la seule petite communiste à qui toutes les occidentales ont eu envie de ressembler, ce qui est déjà
oui,
pas
parce
mal.
Elle fascine l'Est comme ouais, l'Ouest ouais. Les adultes comme les plus jeunes
ouais. Et justement, en ça, elle est exemplaire parce qu'elle sera, enfin, c'est un corps qui est désiré et instrumentalisé par l'Est comme l'Ouest. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun régime, aucun pouvoir qui va lui faire de cadeau. Parce que voilà, c'est vrai que c'est une héroïne communiste pour les Roumains, et à l'Ouest, ça devient un poster. Voilà.
Et Nadia, parce qu'on a l'impression que derrière elle, il y a une personne sans qui peut-être elle ne saurait. Rien, c'est son entraîneur, Bella. Quel est le rapport entre les deux, et qui est cet homme? Un manipulateur, un débrouillard? Il n'est pas gymnaste de formation, il a réussi quand même un entraînement étonnant, extraordinaire.
Mais Bella, le personnage de Bella Caroli, c'est un personnage ambigu, un petit peu comme tout le monde dans le roman finalement, tout le monde est un peu ambigu. C'est un Roumain d'origine hongroise. Donc, dans la Roumanie des années 70-80, Ceausescu ne voulait pas du terme de minorité, il voulait que tout le monde soit roumain. Donc, il n'y avait pas officiellement de minorité. Donc, ça en fait quelqu'un que le pouvoir déteste. Mais moi, j'aime bien le comparer à un tracteur, en fait. C'est un tracteur. C'est un bœuf. C'est un balourd, mais c'est un balourd attachant.
Et puis malin.
Très malin, c'est un metteur en scène. C'est un metteur en scène, c'est quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que c'est la gymnastique, effectivement, mais qui va avoir... Il tombe sur... Alors, on ne sait pas s'il tombe sur elle ou si elle tombe sur lui. C'est-à-dire, c'est peut-être lui qui tombe sur elle. Et peut-être qu'il ne fait rien, il la suit.
Oui, on a l'impression d'un coup de foudre au départ. Il la repère dans une école et il la voit qui fait une roulade. Bon, après, c'est la légende aussi.
C'est la légende,
mais,
oui.
Mais voilà, c'est elle. Il y a quelque chose comme ça.
Il y a quelque chose d'un... C'est comme un contrat entre deux, c'est-à-dire qu'ils vont fabriquer tous les deux Nadia Comăneci, effectivement. Et lui, c'est un metteur en scène qui... puisqu'à l'époque, les Roumains sont non alignés sur... Enfin, ils le seront toujours, mais c'est le seul pays du bloc de l'Est qui n'est pas aligné sur les Soviétiques. Et c'est le... Puisque Ceausescu s'est opposé, je fais un petit rappel historique, ça fait un peu... C'est un peu pompeux, mais je suis désolée, il faut que je le fasse.
Non, c'est bien, remettez-nous un petit peu les pendules là.
En fait, il est élu en 65, et en 68, il s'oppose à l'entrée des chars soviétiques à Prague. Donc, à partir de là, les Occidentaux vont le chouchouter. Les Français, Giscard est venu, voilà, il arrive à emberlificoter à peu près tout l'Occident, les Américains le trouvent formidable, par antisoviétisme. Et ça va lui permettre de monter une dictature mégalomane et d'être hyper soutenu par l'Occident jusqu'à très très tard, en fait. Et je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais...
Béla.
Ben oui. Béla, il est... Il n'a pas peur, en fait, de Ceausescu. Et ça en fait quelqu'un qui est très mal vu, parce qu'il n'est pas très effrayé de ce qu'on met en place autour de lui. Et ce qui est troublant, en fait, dans le personnage, enfin, c'est qu'on ne peut pas vraiment le soupçonner d'être un grand féministe, quoi. Mais pourtant, il va avoir deux idées qui sont très intéressantes. C'est, dans les années 60, il va... se dire que au lieu de les gymnastes, elles ont une vingtaine d'années à l'époque, et lui va s'intéresser à des très petits enfants, parce qu'il pense que si il s'adresse à des enfants, elles n'auront pas eu le temps d'apprendre la peur, ni à être trop soucieuses d'elles-mêmes, c'est-à-dire il veut des enfants qui n'aient pas peur de se décoiffer, il veut des petites filles qui n'ont pas peur de transpirer, et il va aussi n'entraîner que des filles. Parce que son intuition qui est intéressante, c'est que s'il entraîne des garçons, personne ne serait étonné de voir des garçons faire des trucs dangereux, alors que le monde entier sera fasciné par cette sorte de spectacle de petites filles qui frôlent la mort. Et c'est, effectivement, le roman interroge aussi cette fascination qu'on a.
Bien sûr. Et après, au niveau du corps, moi j'ai l'impression que... Enfin, vous me dites si je dis une bêtise, mais il y a une espèce d'instrumentalisation effectivement du corps de Nadia Comaneci. Finalement, elle se retrouve dépossédée de quelque chose, presque. Au début, quand vous évoquez la performance de Nadia, je vous cite, « Et tous raconteront cet instant tenté tant de fois qu'elle n'est plus sûre aujourd'hui de l'avoir vécu. Peut-être l'a-t-elle vu à la télé. Peut-être cet épisode a-t-il été écrit pour un film. » Il y a quelque chose comme ça, non?
Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre, en fait, parce que... pour moi, enfin, le personnage dans le roman refuse vraiment à tous les moments d'être une victime. C'est-à-dire que le résumé, en quelques mots du roman, c'est l'histoire d'une narratrice qui a écrit un roman sur Nadia Comaneci et qui, à la fin de chaque chapitre, lui envoie ce qu'elle écrit et qui a un dialogue fictif avec elle et pour pouvoir discuter de ce qui vient d'être écrit. Nadia, dans le roman, refuse d'être une victime. Elle n'a pas du tout envie d'être cette pauvre petite gymnaste qu'on a manipulée.
Et elle revendique... mais quelque chose qui la dépasse, en fait. Il y a quelque chose qui l'a dépassée.
Elle revendique que ce soit un choix. Moi, j'avais envie de réfléchir aussi, qu'est-ce que c'est un choix? Effectivement, est-ce qu'elle a le choix ou est-ce qu'elle croit qu'elle a le choix? Mais c'est une question qu'on peut se poser tous. Enfin, je veux dire, c'est effectivement, est-ce qu'elle choisit ou pas? Elle, dès le début, elle n'a pas envie d'avoir un destin de fille normale. Elle ne veut pas être comme sa mère. Elle ne veut pas être comme les autres. Et au fond, ce qui l'intéresse, c'est de faire trois sauts au périlleux arrière sur une poutre.
Pour qu'on se rende compte un petit peu du personnage et puis justement de son rapport avec son entraîneur, je vous propose de lire un petit passage, si vous êtes d'accord, sur le choix de la musique, justement, au moment de ces fameux Jeux Olympiques, pour son exercice au sol. Voilà, donc ils sont
Alors, Geza, c'est le chorégraphe, parce qu'il y a une équipe autour d'elle. Geza cherche. Des semaines durant, il tente. Nadia rogne sur l'école et les temps de repos. Ils essayent des musiques sur elle, s'en débarrassent comme de vêtements peu saillants. Non. On a trop entendu ses airs folkloriques et ses valses. Le pianiste Dan fouille dans sa sacoche une partition qu'un ami a rapportée de l'étranger, Young Americans de David Bowie. Mais si les juges prenaient mal cette audace, c'est non. Cet après-midi-là, il tourne en rond depuis des heures. Dan tient une cigarette de la main gauche et de sa main libre, presque en sourdine. Pour se détendre, il esquisse le thème de « Yes, sir, that's my baby », un Charleston de 1925. Nadia, qui déjeune d'une limonade, est assise en tailleur sur le grand tapis de sol, ce carré si usé par endroits qu'on ne distingue plus la ligne blanche qui le délimite. Elle hoche la tête en rythme et se lève, puis, debout face au pianiste pour l'amuser, elle esquisse quelques gestes exagérément saccadés, une parodie de film muet. Elle avance vers Béla en attaquant le sol de ses talons, les bras ballants. Elle est assez drôle, bien plus qu'elle ne se permet avec eux d'habitude. Elle cabotine pour détendre l'ambiance, mais par-dessus tout, songe Géza en la regardant, elle est adorable, insupportablement mignonne. On voudrait lui pincer la joue, lui filer une fessée et la relancer sur la piste, encore, encore. Il écrit à partir d'elle, dès ce jour. Il la reformule à peine. Il y a peu à retoucher, elle est déjà là. Quand les chichis sont en place, c'est ainsi qu'il désigne les pas de danse, Bella parsème la chorégraphie d'acrobatie vierge de nom. Il invente ce qu'il rêve d'elle, en même temps qu'il ordonne ce qu'elle exécute. Elle réussit ce qu'on n'osait pas espérer qu'elle accepterait.
Voilà.
Vous voulez que je m'arrête là ?
Oui, 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 très bien. Oui, je pense que voilà, ça décrit tout à fait l'espièglerie et puis la jeunesse aussi de cette.
Ce qui était troublant dans le début des recherches en fait sur elle, parce que même si c'est un roman, je voulais que ce soit basé sur des choses un contexte exact. En fait, je ne sais pas s'il est réel, parce que quand on a de la documentation, on ne sait pas si c'est réel. C'est que il y a cette adoration mondiale quand elle apparaît. Elle a 14 ans, mais elle a l'air d'avoir 10 ans. Et j'ai lu 15 ans du journal L'Équipe, que la partie gymnastique. Et il y a vraiment une prose dans L'Équipe totalement pédophile. En fait, un amour pour elle qui est quelque chose de... Tous les journalistes sont des hommes. C'est le regard masculin sur elle, sur un corps très prépubère. On parle de son petit torse plat et ferme, de ses petites cuisses, de son maillot blanc immaculé. Il y a vraiment quelque chose, une adoration. Voilà. Et ça va vraiment aller avec la fureur contre son corps quand elle devient une femme. C'est vraiment une sorte de fureur mondiale. Et moi, je me suis intéressée à ce procès, puisque, bon, on en a parlé tout à l'heure, mais... En 1980, aux Jeux de Moscou, elle a 17 ans et on n'assiste pas du tout à une déchéance sportive parce qu'elle gagne, en fait. Et pourtant, le journaliste de Libé qui fait la une dit, en la revoyant, la petite fille s'est muée en femme, verdict, la magie est tombée. Et le sujet du roman, pour moi, était contenu dans la phrase et dans ce type qui parle de verdict, parce que c'est donc clair qu'il lui fait un procès. Et qu'au fond, ça sera sans cesse un procès fait à un corps. Et ce qui m'intéressait, c'était de savoir qu'est-ce que c'est que ce procès, et aussi quelle est cette magie qu'ils regrettent tous, en fait.
C'est terrible.
Un peu, ouais.
Donc finalement, c'est un livre qui peut se lire sur le passage de l'enfance à l'adolescence, sur le corps des femmes.
Oui, parce que évidemment qu'on parle d'une athlète, mais en fait, au fur et à mesure, je me rendais compte au moment de son passage à la puberté, ça parle de moi aussi ou de n'importe qui. C'est-à-dire que c'est le moment où cette fille est expulsée de l'enfance. L'enfance pour elle, c'est le moment magique parce que elle réussit tout. Et au fond, il y a cette expulsion vers le monde de son corps féminin qui, tout d'un coup, les regards changent. Mais les regards sont mondiaux. Les regards ne sont pas seulement le voisin. Et elle devient d'une sorte d'arme incroyable, elle devient une proie. Et c'est ce passage-là qui est terrible pour elle parce qu'elle contrôlait tout, en fait.
Bien sûr. Moi, je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à Nadia en tant qu'héroïne roumaine, vraiment, qui a eu, vous dites, à un moment qu'elle a eu beaucoup de managers.
Oui, finalement, dans le roman toujours, tous les hommes qui s'approchent d'elle deviennent des managers. Il y a Bella Caroli, son entraîneur, qui est vraiment l'apothéose de l'entraîneur, coach, metteur en scène. Il y a Ceausescu, qui manage son image, qui s'attend pas vraiment à ce que ça fasse ça en Occident, de toute façon, puis qui va se trouver dépassé par cette figure. Et effectivement, tout le monde en veut un morceau. Et mais à l'Ouest, ça sera pareil. Hein.
Évidemment.
C'est-à-dire,
oui.
c'est la même histoire, quoi.
Et vous dites que ce n'est pas un personnage victime, mais alors, du coup, à l'inverse, est-ce qu'on peut dire que c'est un personnage moteur ? Elle a joué un rôle.
Oui, enfin, moi j'ai l'impression.
Du fait de jouer un rôle, elle a un rapport aussi très particulier avec le fils des époux de Ceausescu. Enfin, ouais. Vous lui donnez un rôle très particulier dans le roman.
À partir de 83, elle est à la retraite, en fait. Mais puisque son entraîneur a fui, à l'époque, quand quelqu'un de proche de vous fuit, vous êtes d'autant plus surveillé. Et donc, elle devient enfermée en Roumanie. Elle est prisonnière. Et effectivement, il y a cette rumeur où moi, j'avais pas envie de savoir si c'était vrai ou pas. De toute façon, le roman n'est pas un truc de révélation du tout. Finalement, voilà. Donc, il y a le fils de Ceausescu qui est ministre des Sports et de la Jeunesse, ce qui en fait son supérieur hiérarchique à l'époque, puisqu'elle n'est plus qu'une entraîneur normale. Voilà. Et un petit peu dans la lignée de ce que je disais, c'est-à-dire que si finalement l'histoire d'un corps féminin, c'est son supérieur qui la harcèle. Tout simplement, en fait. Mais c'est son supérieur, parce qu'il est ministre, quoi. Je veux dire, c'est pas... Il a une armée à disposition.
Et à votre avis, est-ce qu'elle a la même image à l'Est qu'à l'Ouest?
Maintenant?
Non, à cette époque.
Non, parce que... en Roumanie, elle était une athlète. Et en Occident, elle est une starlette. Ça n'a rien à voir, en fait. Pendant de longues années en Roumanie, ce qui va compter, c'est ce qu'elle accomplit. Mm-hmm. Alors qu'elle devient cette image iconique de ce juste corps blanc avec les couettes, cette image incroyable créée aussi par les médias américains, parce que c'est eux qui filment Montréal. Cette image, elle est plutôt occidentale. Mais vous disiez tout à l'heure, en fait, est-ce qu'elle est moteur? Oui, parce que moi, j'ai l'impression que toutes les petites filles qui ont bloqué sur cette image, elles sont fascinées par l'image d'une petite fille qui est pas... C'est pas juste de la grâce, c'est de la puissance, en fait. Mmh. C'est une fille qui court à 42 km/h. C'est une fille qui est surpuissante, qui se confronte à des dangers incroyables. Et donc, effectivement, je pense qu'elle est moteur dans le sens où elle fait rêver des petites filles. C'est pas une princesse, quoi. C'est Fifi Brin d'Acier, quoi. C'est tout à fait autre chose.
Et au niveau de l'image qu'elle peut donner du régime Ceausescu, est-ce que ça leur a servi complètement ou pas desservi ? Desservi. Parce qu'en fait, ce qui est étonnant, c'est que cet événement génial en 76 à Montréal, où finalement elle fait une performance excellente, donc elle se retrouve au devant de la scène, elle a son parcours, elle prend sa retraite dans les années 80, et elle fuit quand même 15 jours avant, je crois que c'est à peu près ça, le démantèlement du régime Ceausescu.
Oui, mais c'est drôle. En fait, encore un journaliste hyper sympa. Enfin, j'avoue que là, en fouillant dans la documentation, j'ai été effarée de la violence, en fait, effectivement, qu'elle a déclenchée. Elle fuit 15 jours avant. Mais vous savez, personne ne savait que le mur allait tomber.
Bien sûr.
Et personne ne savait non plus que le régime roumain allait tomber.
Non, mais c'est amusant que ça, finalement, que ça.
Elle a fui quand elle pouvait. Et je pense qu'il faut se remettre aussi dans ce contexte-là. Et ce journaliste, en fait, justement, enfin voilà, je vais pas trouver l'extrait tout de suite, sinon je vous l'aurais lu. Mais le lendemain de sa fuite en France, ce type écrit elle a fui. Elle savait bien sûr que le régime allait tomber, et elle a fui pour éviter d'être tondue. Le parallèle est incroyable. C'est-à-dire, non seulement, c'est complètement absurde d'imaginer qu'elle aurait pu savoir le futur, mais le parallèle, c'est toujours un jugement sur... c'est lui qui le fait, le parallèle. C'est-à-dire, on parle de quoi, là, enfin... Oui, c'est...
Non, moi, ce que je trouvais étonnant, si vous voulez, c'est qu'elle elle est vraiment illustrée, si vous voulez, illustrer le pouvoir roumain jusqu'à la fin. Enfin, vous voyez, elle a été là jusqu'à la fin. Et puis, après, c'est sans doute une coïncidence, j'en sais rien. Je n'ai aucun jugement là-dessus. Mais voilà, c'est un personnage qui disparaît en même temps, comme s'il y avait eu quelque chose qui s'était fait ensemble, en fait.
Oui et non, parce que au fond, et c'est aussi ce que je voulais faire dans le roman, c'est-à-dire d'interroger tous les clichés qu'on a sur les pays de l'Est, parce que le dialogue est fait pour ça. En fait, le dialogue entre les deux est fait pour essayer d'examiner de que la vérité, elle est pas, il n'y a pas un curseur de la vérité qui est occidentale. La vérité n'est pas forcément ici, elle est partout. Et au fond, quand la narratrice lui reproche, lui dit, vous avez été un symbole du communisme. Oui, mais tous les sportifs qui gagnent sont des symboles politiques. D'ailleurs, ici, voilà, quand les footballeurs gagnent, ils vont à l'Élysée.
Oui, c'est un peu les nouveaux héros des temps modernes.
Oui,
c'est certain.
Et la différence, c'est vrai, ce qui est assez différent à l'époque, c'est que on gagne pas d'argent. Donc, en fait, à l'époque, en Roumanie, quand on devient champion, c'est quelque chose qui se situe tout à fait en dehors de toute l'histoire des sponsors et tout ça. C'est une autre histoire, quoi. C'est un peu dur à imaginer maintenant, en fait. C'est un autre.
Et au niveau du choix du titre, La petite communiste qui ne sourit jamais, qui est emprunté aussi à un article de presse.
Non.
Ah, pardon, je pensais.
Non, c'est moi.
Excusez-moi. C'est en tout cas un titre assez frappant, mais à votre avis, est-ce qu'elle a été heureuse? Est-ce que vous en faites un personnage déterminé, certes, mais la notion d'accomplissement, de bonheur, etc. On a l'impression que c'est toujours faire ce qu'il y a à faire, ce qu'il faut faire. Et,
Mais moi, je dirais oui, et peut-être que... dans le roman, c'est un personnage un peu christique, c'est-à-dire qu'effectivement, elle est appelée vers quelque chose qu'elle ne comprend pas elle-même. Il y a un désir d'autre chose. Oui. C'est pas malheureux, c'est autre chose. C'est aussi la question de est-ce qu'on ne peut pas trouver parfois sa liberté dans des choses étranges, qu'on ne s'explique pas. C'est-à-dire, c'est ça aussi, c'est quoi la liberté? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est de passer... qu'est-ce qui est normal, en fait? Est-ce que c'est passer 10 heures par jour devant Facebook ou c'est de faire 4 sauts périlleux? C'est aussi dingue, l'un que l'autre. Mais voilà, c'est vrai que... moi, j'ai essayé de ne pas être dans le jugement. Mm-hmm. Et de, on peut trouver sa liberté dans des disciplines très, très coercitives. L'écriture, c'est un peu comme ça aussi, en fait. Ça paraît un peu fou de s'enfermer pendant 2 ans pour écrire un roman, en fait. C'est pas forcément normal.
Justement, à propos de l'écriture, Nadia Comaneci, elle apparaît dans vos précédents romans, comme ça, une allusion, quelque chose. Et j'aurais aimé justement que vous nous fassiez une petite lecture de votre second roman, qui s'appelle « De ça, je me console ». Vous la faites intervenir de manière assez surprenante. Et c'est vrai que quand on lit La petite communiste qui ne sourit jamais, il y a une résonance qui vient.
Maintenant, il me semble que ce cahier est né d'un jeu auquel je jouais avec mon père. Un jeu inventé pour que j'arrête de pleurer. Si le problème était le mot « foi », par exemple, comme dans « papa, bounika, mamie, veut me forcer à manger un foie », mon père ramassait le foie. Elle me demandait de noter ce mot, de lui attribuer une force de tristesse sur mon échelle de malheur. Foi, tu t'en consoles ou pas? Je ne pouvais pas honnêtement lui répondre que de cette histoire, je ne me consolerai jamais. Sa mise en perspective remettait ce foi à sa place. Oui, je m'en consolerai. Je devais donc répondre à mon père, de ça, oui, je me console. Au fur et à mesure, le jeu s'est amélioré. Mon père continuait à me demander de noter mes mots tristes, mais aussi il vérifiait de temps en temps s'il me connaissait bien. On marchait dans les rues de Bucarest. Il réfléchissait un moment, puis proposait « Jeux olympiques ». C'est la catastrophe. Nadia Comaneci battue par une Américaine au sol, à la poutre. Pour la poutre, je lui laisse conserver son titre. Je visualisais la catastrophe, pesais le sol et la poutre, puis je rendais mon verdict. Oui, de ça. Oui, de ça, je me consolerai.
Alors, quand est-ce qui est venu? Étonnant.
Oui, alors, pour être parfaitement honnête, moi, j'avais oublié ce passage, et c'est vous qui me l'avez dit, moi, j'avais oublié.
C'était dans votre inconscient.
Ouais, ouais.
Quand est-ce qui est venue l'envie d'écrire sur Nadia Comaneci, qui, pour vous, d'origine roumaine, ça, vous allez nous dire aussi le lien que vous avez avec ce pays, elle est sans doute une icône?
Oui. C'est très très dur de vous répondre honnêtement parce que je crois qu'on ne sait jamais quand un sujet prend forme et qu'il devient un sujet de roman. C'est-à-dire, Je pourrais même pas vous dire, tiens, je me suis pas dit un jour, ah bah je vais...
Parce qu'il y a le corps quand même qui est présent dans tous vos romans. Et là, on est encore sur une histoire
de corps. On est sur une histoire de corps, puissance un million, mais aussi sur... peut-être le lien, il est aussi sur comment grandir, comment faire.
Et c'était aussi peut-être une envie d'écrire plus précisément sur la Roumanie.
D'interroger, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'interroger cette vision extrêmement bande dessinée qu'il y a ici des ex-régimes communistes et même de l'Europe de l'Est en général maintenant, c'est-à-dire parce que c'est évidemment il y a toujours une Europe de l'Est. On voit avec l'actualité que il y a pas une Europe, il y a vraiment une Europe de l'Est et j'ai toujours eu l'impression que d'ici, l'Europe de l'Est, c'était un endroit où il faisait très froid et où les gens avaient des grands imperméables noirs, ils étaient tous espions. Donc, ça, je pousse un peu, mais j'avais envie de pouvoir raconter le régime roumain de l'intérieur, vu par une enfant aussi, ce qui était faisable parce que je l'ai vécu.
Oui, vous avez quitté la Roumanie à l'âge de
12 ans et demi.
De 12 ans et demi.
Oui. Presque. Et oui, d'interroger vraiment cette vision unilatérale et de pouvoir remettre la narratrice à sa place. La narratrice, c'est vraiment l'occidental type. Elle est très gentille, elle est pleine de bonne volonté.
C'est une candide.
C'est une candide. Elle pense qu'elle va bien faire, elle pense qu'elle a tout compris. Et peu à peu, au cours du roman, elle va être très secouée quand même. Parce qu'elle doit apprendre à reconsidérer sa manière de voir effectivement... cette Europe-là.
Alors, moi, j'ai pensé à quelque chose, mais je me suis peut-être... j'ai peut-être fantasmé, je ne sais pas, mais en lisant ce roman, j'ai pensé à W ou le souvenir d'enfance. C'est peut-être tiré par les cheveux.
Non, c'est pas mal.
Vous connaissez sans doute... c'est en tout cas un beau compliment, parce que c'est une référence à Pérec, qui est quand même un grand, grand romancier français. Je ne sais pas si vous connaissez ce roman W, qui est un récit croisé entre à la fois les souvenirs d'enfance de Georges Pérec, qui a un vrai voile sur toutes ses premières années de vie, puisqu'il a été élevé par sa tante, ses parents ont été déportés. Et donc un récit croisé entre ses souvenirs et à la fois la description d'un monde un petit peu particulier, un espèce de monde où le sport est élevé. C'est la chose la plus importante. C'est chaque personne est sommée de faire du sport. Enfin voilà, c'est vraiment une discipline nationale, quoi, voire plus que ça. Et voilà, j'ai pensé à ça. Est-ce que vous aussi vous y avez pensé? Est-ce que
non, c'est drôle parce que pas du tout. Mais j'adore ce livre, donc j'adore ce roman et aussi pour sa forme justement. Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a d'un côté le sport, c'est pas un roman sportif du tout,
non.
Enfin, faut quand même, voilà. Mais il y a d'un côté le sport et il y a d'un autre ma fascination peut-être pour les gens un peu enfermés dans une manie, dans le roman précédent c'était la danse ou l'écriture, et c'est vrai que j'ai une tendresse pour les gens qui sont très éloignés du monde et qui refont toujours un petit peu. Alors là, elle refait 20 000 fois le même salto avant de le faire à Montréal. Et pour moi, il y a quelque chose de très, très beau, parce que c'est complètement inutile. C'est pas productif. Bon, dans son cas, ça produit quelque chose, mais c'est en dehors de tout. Parce que, encore une fois, parce qu'à l'époque, ça ne ramène pas d'argent, quoi.
Oui.
Et que donc, c'est... ça sera fini à 18 ans. C'est comme une sorte de trajectoire d'étoile filante. Et elle invente quand même des gestes qui n'ont pas de nom. Donc elle réécrit, il y a une sorte de réécriture qui moi m'intéressait beaucoup.
Et au niveau du rapport entre littérature et sport, on pense aussi, vous avez sans doute lu Courir de Jean Echenoz, je parle au public, ou la mélancolie de Zidane de Jean-Philippe Toussaint, ou Alias Ali de Frédéric Roux. Est-ce que vous les avez lus? Est-ce que en les lisant vous êtes dit ça, c'est chouette, c'est une bonne idée, ou pas du tout? Vous n'avez pas eu envie de les lire parce que justement vous aviez envie de vous lancer dans une expérience similaire. Pourquoi les sportifs fascinent les écrivains comme ça?
Je ne peux pas tellement répondre à leur place, mais j'ai lu Courir de Jean Echenoz, mais j'adore Jean Echenoz, donc je, voilà. Alors, je pense que ce qui est différent là, c'est que c'est une femme. C'est-à-dire, ça pourrait pas être la même histoire avec un athlète homme, parce que personne ne dirait à un athlète homme qui, d'abord, on les voit pas grandir, on les voit pas si petits, mais personne n'irait dire, comme le type du Guardian lui a dit, tiens, la Nadia, maintenant, elle doit se raser les aisselles et porter un soutien-gorge. Quand elle a eu 17 ans. C'est-à-dire que la vulgarité, l'obscénité qu'il y a eu autour du regard sur son corps, ça ne pourrait pas arriver avec un athlète homme. Pendant que j'écrivais, il y avait cette tenniswoman française, Marion Bartoli, qui a gagné un super tournoi. Et le jour où elle a gagné, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui lui a été reproché? De ne pas être assez jolie ou d'être trop grande ou trop costaud, je ne sais pas. Donc il fallait qu'en plus de ce qu'elle a accompli, elle soit un top modèle. C'est vraiment la double... C'est comme si l'accomplissement n'était pas suffisant. Et donc en ce sens, pour moi, j'aime beaucoup les romans dont vous avez parlé, mais c'est un sportif homme, il reste une icône, ou alors extraordinairement romantique, déchu, cocaïnomane et tout ça. Mais on ne parle pas de son corps.
C'est vrai.
Il n'est pas pesé devant tout le monde. Il n'y a pas ce truc quoi, d'impossibilité de... voilà, on ne le juge pas au centimètre.
Et au niveau de l'écriture à proprement parler, est-ce que finalement, parler aussi du sport, quand même, enfin en tout cas de la gymnastique, c'est aussi l'occasion pour un romancier de s'approprier un vocabulaire. Se dire, allez, je pense à Maïlys de Kerangal qui a écrit « Réparer les vivants » en se disant, mais voilà, je vais m'approprier le vocabulaire de la médecine et en faisant quelque chose de littéraire. Est-ce que vous aussi, vous aviez envie de ça? C'était une chance pour vous
de... Le problème, il y en avait, c'était plutôt une peur, c'est-à-dire il y avait de s'attaquer à un truc qui est ultra visuel.
Oui.
Quelque chose qui est purement visuel et... D'ailleurs,
un défi.
Ouais. D'ailleurs, je crois que, enfin, d'après ce que j'ai compris, j'ai fait une erreur technique sur quelques termes. Donc, pardon aux gymnastes.
Écoutez, on ne s'en rend pas compte, en tout cas. Mais oui, vous aviez envie, oui, de... parce que c'est difficile de décrire, justement, mais à la fois les entraînements, les différents sauts, etc. Il y a quelque chose autour du rythme aussi.
Oui. Ça, c'était plus important en fait que la gymnastique, c'était la bonne musique en fait. Et c'est vrai que j'ai fait une première version que j'ai jetée parce que elle était trop lente. Il y avait des très longues phrases et en fait j'ai compris que le texte devait correspondre à sa rapidité à elle, à son rythme. Le texte devait épouser son corps. Elle est très affûtée, elle est extrêmement fine, précise, et donc il fallait des chapitres très courts, enfin à mon sens, et des phrases rapide. Mais le roman change de rythme au fur et à mesure, oui. En fait, de sa vie.
De sa vie, oui, de son âge.
Oui.
Quand on interroge Frédéric Roux pour l'écriture d'Alias Ali, il a dit que pour lui, il s'agissait de démonter et remonter quelques milliers de points de vue, souvent contradictoires, et à partir de tout cela, essayer de faire de l'électricité. Comment vous avez travaillé? Est-ce que ça voilà, ça ressemble un petit peu à ce qu'a fait Frédéric Roux, ou c'était différent?
Il y a quelque chose de ça, puisque c'est vrai que j'ai eu accès à de la documentation française et roumaine, et que je me suis retrouvée un peu dans la position de la narratrice, puisque je lisais la version occidentale, et puis j'allais en Roumanie, je lisais tout à fait l'opposé. Je savais que la vérité était les deux, et c'était intéressant de me dire... Ce roman comprendra toutes les versions, parce qu'en réalité, évidemment, les deux sont très intéressantes, sont une manière de raconter l'histoire. Et la question, c'est surtout comment on raconte les choses qui se sont passées, de quel point de vue. C'est-à-dire, comment les Français ont raconté Montréal, mais comment les Roumains l'ont raconté? Pas du tout de la même façon. Mmh. Et moi, j'avais pas envie de choisir, effectivement. Et c'est ce cheminement-là aussi qui m'intéressait, c'était... à quel moment on s'arrête quand on raconte, quand on veut créer une fiction autour de quelqu'un qui existe? Qu'est-ce qu'on ne touche pas?
Comment se défaire de la légende aussi, peut-être?
Oui, oui. Ou comment bâtir encore plus la légende? Parce que finalement, la scène de Montréal que tout le monde connaît, enfin à peu près, moi j'ai choisi de commencer par là pour m'en débarrasser. Je me suis dit, bon, ça... C'est le moment de bravoure, tout le monde l'a vu, il faut le faire, c'est la légende. C'est la légende parce que c'est vraiment une image de télé. en fait, vraiment.
Et bon, j'imagine qu'on vous a déjà beaucoup posé la question, mais est-ce que vous avez contacté Nadia Comaneci avant d'écrire le livre? Est-ce que vous avez eu des rapports avec elle?
Merci de me poser la question, ça sera réglé.
Parce que, bon, entre parenthèses, c'est vrai qu'au départ, vous indiquez cette idée de dialogue fantasmé entre vous deux, dès le début du livre. Hein, ce n'est pas vrai, c'est fictif. Mais c'est vrai qu'on, finalement, on le lit sans forcément se dire c'est vrai, c'est faux. On joue le jeu, en fait. On joue tous les jeux que vous nous proposez, en fait, dans ce livre. Mais concrètement.
Non. Concrètement, non, c'est vraiment un roman. Je travaille comme dans un roman normal, enfin peut-être plus documenté. Donc, elle était au courant
vous l'aviez mise au courant
oui,
au départ.
Elle a été au courant, mais non, je voulais pas du tout la rencontrer parce que ça aurait été une enquête. C'est pas du tout une enquête, voilà. Et
non. Vous ne savez pas si elle l'a lu ou si non.
Non.
Et peu importe. Mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup.
Merci.
Pour toutes ces réponses. Et puis, je vous encourage évidemment à lire La petite communiste qui ne souriait jamais, paru aux éditions Actes Sud. De ça, je me console, paru aux éditions J'ai lu. Et Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce, qui vient de sortir dans la collection Babel. Et puis, votre premier roman, enfin, qui s'appelle Une fièvre impossible à négocier, qui est encore aux éditions J'ai lu. Merci beaucoup, Lola Lafont.